Donc, dans le christianisme, on parle d'espérance. Et il semble évident pour tout le monde que l'espérance est une bonne chose et que c'est même un des fondements, je dirais, de la foi chrétienne et que donc nous sommes appelés et invités en tant que chrétiens à vivre de l'espérance. Nous croyons que la foi chrétienne, c'est en fait espérer fondamentalement. Or, je vais vous dire, un peu par esprit de contradiction, parce que quand tout le monde part dans un sens, j'ai un peu tendance à vouloir partir dans l'autre, mais néanmoins, cette notion d'espérance me dérange d'une certaine manière. Parce que je crois que trop souvent, dans le christianisme, on a justement présenté ce que Dieu apporte au futur comme une sorte de promesse. Et je n'aime pas cette idée de promesse. Peut-être parce que j'étais trop souvent trompé par des promesses. Les hommes politiques n'arrêtent pas de faire des promesses. On nous fait des promesses et des promesses. Et moi, des promesses, encore des promesses à l'Église. On va encore nous dire, pour l'instant, vous êtes dans le problème, tout va mal, mais je vous promets, ça ira mieux plus tard. L'espérance, espérer. Je trouve ça insupportable. Et pour tout vous dire, je trouve ça une fausse bonne nouvelle. Moi, je crois que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui et pas pour demain. Et cette notion d'espérance qui renvoie à demain la bonne nouvelle me pose de réels problèmes. Il n'y a pas à remettre les promesses de Dieu pour les calendes grecques. Il n'y a pas ni à dire aux gens « supportez vos problèmes, supportez vos malheurs, soyez malheureux, mais après, dans le paradis, dans l'autre monde, dans le royaume de Dieu, je ne sais pas, Dieu vous récompensera, Dieu corrigera toutes ces inégalités. » Est-ce que vraiment nous devons toute notre vie supporter tous les malheurs du monde, être malheureux toute notre vie, être désespéré, être triste, uniquement avec cette espèce de promesse qu'après la mort, les choses pourraient s'arranger? Eh bien, si ça vous convient, tant mieux. Moi, ça ne me convient pas. Et je crois que, quand je lis l'Évangile, ce que j'y vois, c'est une bonne nouvelle. Mais pas une bonne nouvelle pour demain, ni pour l'après-mort, ni pour demain dans ma vie. Une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour vous, tout de suite. Vous êtes là, et moi je vous dis, la bonne nouvelle, elle est maintenant pour vous. Vous avez un Sauveur, vous avez un Dieu qui vous aime. Vous avez la possibilité aujourd'hui de vivre de la joie du ressuscité. Ce n'est pas pour demain ou pour je ne sais pas quand. Et donc l'espérance, c'est souvent, je crois, un cache-misère finalement de ceux qui ne peuvent rien donner et qui se contentent de vous dire « vous mangerez demain ». Mais le rôti de demain ne me nourrit pas aujourd'hui. Et l'espérance n'a jamais nourri personne. Et donc, il faut bien qu'aujourd'hui même, nous ayons quelque chose pour nous. Et par conséquent, c'est là mon premier point, mais je ne resterai pas là, mais je ne veux pas entendre parler de cette espérance a priori. Et quand je lis l'Évangile, je me rends compte que le Christ lui-même, quand il dit les béatitudes, par exemple, il ne dit pas « heureux les pauvres parce que le royaume de Dieu sera à eux ». Plus tard, il dit « heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux ». Il est à eux. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, si vous lisez bien, sans cesse, elle est au présent. Et bien d'ailleurs, des gens l'ignorent ou ne s'en rendent pas compte. Même Jésus, par exemple, dans l'Évangile de Jean, il dira « celui qui croit en moi, il a la vie éternelle ». Il ne dit pas « il aura la vie éternelle plus tard » et celui qui a la foi, il aura quelque chose, je ne sais pas quand. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il a aujourd'hui dans sa vie quelque chose d'éternel. De même, Paul ne dit pas « si vous avez la foi, vous ressusciterez avec Christ ». Mais Paul, quand il parle de la résurrection, il le met même au passé. Et il dit aux fidèles « vous êtes ressuscité avec Christ ». De même, Paul ne dit pas « vous serez des nouvelles créatures », mais Paul dit « vous êtes des nouvelles créatures ». Et regardez bien dans l'Évangile le rapport qu'a Jésus avec tous ceux qu'il rencontre. Est-ce que vraiment vous voyez là des sortes d'appels à l'espérance? Il ne dit pas à la femme adultère, pour l'instant tu reçois des pavés, tout le monde te condamne, mais plus tard tu verras, espère, et peut-être que Dieu ne te jugera pas. Il ne dit, moi je ne te condamne pas. C'est pas demain, c'est tout de suite. Et de même, quand il voit des gens qui sont malades, en difficulté et souffrant, il ne les appelle absolument pas à l'espérance, pas une fois. Il ne dit pas à l'aveugle ou au paralytique, je suis bien désolé mon gars, t'es pas bien là, mais espère en Dieu et plus tard je ne sais quoi. Il ne dit pas ça, il dit, toi tu es paralysé, lève-toi et marche. C'est du concret, c'est de l'immédiat, c'est du tout de suite. Et donc Jésus guérit maintenant. Et donc je crois que l'évangile c'est du concret. L'évangile c'est une vraie bonne nouvelle. Et ce n'est pas une promesse de politicien. L'évangile ce n'est pas, vous savez, le demain on rase gratis. C'est-à-dire c'est un demain qui est sans arrêt reporté. Cette histoire d'espérance, j'ai même été étonné par une chose, parce que en y réfléchissant théologiquement comme ça, je me suis dit, mais c'est tellement anti-évangélique l'espérance, que je ne comprends pas. Alors je me suis dit, je vais chercher dans l'évangile, où est-ce qu'on trouve le mot espérance. Le mot espérance se trouve 0 fois dans Matthieu, 0 fois dans Marc, 0 fois dans Luc et 0 fois dans Jean. Le mot espérance, elpis en grec, ne se trouve dans aucun des 4 évangiles. L'espérance, c'est une invention de Paul. Et alors maintenant, à vous de choisir. Est-ce que vous êtes disciple de Paul ou de Jésus-Christ? Moi, j'ai choisi. Je suis disciple de Jésus-Christ et les élucubrations de Paul sur l'espérance, je préfère les laisser à d'autres parce que ça ne me convient pas. L'espérance, c'est un discours de camelot, si vous voulez. On promet, on promet, on promet des tas de choses. Plus tard, ça ira mieux. C'est un discours de politicien. Et depuis 53 ans que j'existe, j'entends de droite comme de gauche les politiciens qui nous disent « Ah, ça va pas bien, mais en 2020, ça ira mieux. En 2050, ce sera réglé. En 3077, en 7092. » Mais toujours, 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 plus tard. Pas maintenant, après. Eh bien moi, j'en ai assez de ces promesses d'espérance. Le Christ est aujourd'hui maintenant, Jésus est-il votre Seigneur? Et si aujourd'hui vous prenez Jésus pour votre Seigneur, il vous guérit, maintenant, pas demain, tout de suite, là. C'est ça, la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pas une bonne nouvelle pour demain, c'est une bonne nouvelle pour tout de suite. Et plutôt que d'espérance, j'aimerais mieux entendre parler de confiance. Voilà, c'est ça moi, j'ai confiance en Jésus-Christ. C'est curieux d'ailleurs, parce que le mot hébreu pour dire l'espérance est le même que celui pour dire la confiance. Alors on traduit toujours « espère en Dieu », alors qu'on pourrait dire plutôt « mets ta confiance dans l'Éternel », parce que le mot « espérer » se trouve dans les psaumes, par exemple. Eh bien, ce n'est pas « mets ton espérance en Dieu », c'est « mets ta confiance en Dieu », parce que la confiance, ça, c'est du solide et c'est du fort. Maintenant, les chrétiens sont obsédés par cette idée de futur, cet horizon. Un horizon, c'est quelque chose que l'on n'atteint jamais. C'est un peu ça, l'espérance chrétienne. On fait courir les gens vers des lendemains meilleurs qu'ils n'atteignent jamais, jusqu'à ce qu'ils se découragent et qu'ils perdent la foi. Ça, c'est dommage. Et c'est tellement ancré dans la foi chrétienne que dans les psaumes, par exemple, chaque fois qu'il y a des belles choses dans les psaumes, nos traducteurs le mettent au futur. Ils disent « L'Éternel te comblera de tout bien, l'Éternel donnera la lumière à tes yeux, l'Éternel te fera voir le bonheur. » Mais en hébreu, il n'y a pas de futur et de présent. C'est le même temps, il y a simplement un verbe qui est un présent qui s'ouvre vers l'avenir, mais ce n'est pas forcément un futur. Et donc on peut très bien, et moi c'est ce que je fais à chaque fois que je lis un psaume, mettre tout cela au présent. Et ce n'est donc pas « l'Éternel te comblera de tout bien », mais c'est « l'Éternel te comble de tout bien ». Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas « il donnera la lumière à tes yeux », c'est « l'Éternel te donne la lumière à tes yeux ». Ce n'est pas « l'Éternel te fera voir le bonheur », l'Éternel te fait voir le bonheur. Il faut relire tous ces psaumes, et chaque fois que vous voyez un futur, vous le mettez au présent. parce que c'est comme ça que ça se passe. Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Quant à l'idée d'un pari d'espérance, qui est le thème de ces journées protestantes, ce mot « pari » est encore plus effroyable. J'imagine qu'ils ont voulu y trouver là un jeu de mots. À Paris, ben ça se passe à Paris, voilà, c'est drôle. Hein. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit. On ne fait pas de la théologie avec des jeux de mots. Hein. Et là, autant l'espérance, je vais y revenir, mais l'idée d'un pari, alors là, ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout. D'abord, ça me fait penser à Pascal, le pari de Pascal, qui n'a jamais converti personne. Évidemment, c'est absurde. On vous dit pour l'instant, embêtez-vous, pratiquez et faites le pari que plus tard, vous serez récompensé. Ben merci, moi ce que je veux, c'est vivre bien maintenant. Ce pari de Pascal, c'est l'idée d'une sorte d'intérêt. Pourquoi je ferai le bien en me disant peut-être que ça me rapportera plus tard? Eh bien, l'Évangile n'est pas un pari. Le pari, c'est l'incertitude, c'est le jeu. L'Évangile, c'est la certitude. Je ne parie pas, je gagne à tous les coups. Il n'y a pas d'aléa, pas d'aléatoire, pas d'incertitude. Il n'y a qu'une confiance absolue que j'ai en Jésus-Christ, le salut, la lumière, la vie et la joie. Le Christ lui-même, d'ailleurs, justement, dit à différents moments, « Donnez sans rien attendre. Donnez sans rien attendre. » L'idée d'un pari, c'est qu'on attend. Et donc, quand on parle du pari de l'espérance, sur l'espérance, je vais y revenir, on peut discuter, mais sur l'idée d'un pari, on est là, très loin de l'Évangile. Et donc, ça m'inquiète un peu, ce programme. Cela dit, je me demande si je ne me suis pas laissé un peu entraîner par ma fougue. Et est-ce que vraiment cette notion d'espérance est à jeter aux orties aussi vite que cela? Parce que, après tout, elle est quand même, c'est vrai, présente dans Paul. Mais on ne peut pas non plus traiter Paul de débutant à négliger. Donc il faut faire attention. Et peut-être, finalement, peut-être faut-il quand même un peu d'espérance. Donc, je me demande si je ne vais pas changer d'avis, parce qu'en effet, quand je regarde le présent, quand je me regarde moi-même, je dois bien dire que le présent ou moi-même n'est pas toujours reluisant. Et je vous dis, Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui, mais aujourd'hui, suis-je capable d'avoir une foi telle que je ressorte illuminé, joyeux, reconstruit, ressuscité, guéri? Les choses ne sont pas si simples dans notre vie. Pas toujours immédiate, même si la bonne nouvelle est pour aujourd'hui, pour moi, elle n'est pas toujours aussi directe. Et quand je regarde ce que je suis moi aujourd'hui, parfois ce que je trouve, c'est du découragement, du sombre et du noir. Et je me dis que, effectivement, peut-être faut-il, dans notre vie ici même, avoir les yeux tournés vers la lumière, même si je ne l'ai pas entièrement. Et qu'il faut aussi se tourner son regard vers ce qui n'est pas ce que je suis ici-bas, si vous voulez, et ce que je suis aujourd'hui. Il faut tourner son regard vers un ailleurs, vers quelque chose d'autre, et peut-être, pourquoi pas, vers un futur, mais pas un futur de demain ou après-demain, une sorte de futur hypothétique. Et Paul, d'ailleurs, exprime cela joliment dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, quand il dit: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est vrai, je crois que finalement je suis prêt à me convertir à cette idée d'espérance dans ce sens-là. C'est que le présent ne peut se construire que par rapport à une vision que nous avons de l'avenir. C'est-à-dire que pour vivre aujourd'hui, les bons conseils ne suffisent pas. Et pour vivre aujourd'hui, même les discours radicaux qui nous font croire que tout pourrait changer aujourd'hui sont parfois inopérants. Et par conséquent, il faut aussi vivre peut-être en étant tendu vers quelque chose qui nous attire et vers lequel nous voulons nous diriger. Et certainement, on ne peut pas vivre en ne restant que dans le présent, parce que sinon, on n'avance pas, on reste immobilisé, écrasé dans son présent. Et je pense que peut-être qu'effectivement, si on oublie cette dimension du futur et de l'espérance, eh bien oui, on peut donner des petits conseils humains aux gens, allez, ça va bien, tout va bien, soyez heureux, prenez confiance, mais tout ça, est-ce que ça n'est pas une petite morale un peu humaniste finalement qui nous laisse un peu sur place en quelque sorte? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait dans notre vie un élan qui nous emmène vers un ailleurs, qu'il y ait une sorte de visée lointaine et qu'il y ait un regard vers là où je veux aller, les yeux tournés vers une sorte d'horizon qui m'attire et qui m'aspire, parce que je ne peux pas me sauver moi-même et donc je ne peux que me tourner vers un ailleurs. Et peut-être que c'est ça l'espérance finalement, justement de me laisser attirer, aimanter par une vision d'avenir qui me permet d'avancer. C'est l'idée en philosophie de l'utopie, en quelque sorte. L'utopie, c'est ça, c'est quelque chose qui est devant, qui n'est peut-être pas un endroit à atteindre, mais qui me met en mouvement, un idéal qui me fait avancer. Et je crois que si on n'a pas cette dimension-là d'une transcendance, d'un absolu, de quelque chose d'extraordinaire qui nous attire et qui nous invite à avancer, alors on ne peut pas avancer. Et c'est ça, finalement, dans lequel je crois. Donc, j'ai été sans doute trop radical tout à l'heure. Il faut qu'il y ait dans notre vie une espérance, et c'est par l'espérance que nous avançons, parce que sans ce futur qui nous fait avancer, nous ne pouvons rien faire. Et donc, l'Évangile est cette vision d'avenir, cette projection qui nous permet d'être en marche. Alors, du coup, j'avoue que je ne sais plus très bien comment m'en sortir, parce que je ne sais plus si je suis pour ou contre l'espérance. Après en avoir dit tant de mal, et j'ai été convaincu de ce que je vous ai dit, et après en avoir pensé du bien, parce que je suis convaincu aussi que sans espérance, nous ne pouvons pas vivre, parce que notre propre finitude nous rattrape et nous tue. Finalement, je ne sais pas quelle est la vérité. Mais peut-être que justement, c'est ça la complexité et la richesse de l'Évangile qui est de ne pas rester dans des choses simples. Vous savez, la vie est compliquée et je ne crois pas qu'il y ait de réponse simple aux problèmes compliqués. Et c'est vrai que notre vie, c'est d'être, je dirais, dans un présent qui est lui-même construit à partir d'un passé dont on essaye de se libérer, mais après tout, pourquoi faudrait-il toujours se libérer du passé? Il faut juste être capable de faire en sorte qu'il ne nous fasse que du bien, et ne peut-être que tourner vers un futur. Et l'Évangile nous montre sans arrêt qu'il faut arriver à trouver une sorte d'équilibre extrêmement juste entre ce passé, ce présent et ce futur. C'est-à-dire entre ce que je suis, ce que j'étais et ce que je suis invité à être. Et si on déséquilibre cela, on tombe. Soit on tombe dans l'immanence absolue d'une imbécilité. Ce que j'ai dit au début, finalement, c'était peut-être vrai, mais c'était quand même très, très simpliste, si vous voulez, très, très terre-à-terre. Donc si on reste dans le présent, on reste dans une sorte de terre-à-terre un peu immédiat, qui n'a aucune aspiration, aucune élévation, et même aucune réalité, parce que le présent, il n'est pas tout ce que l'on peut vouloir en être, et le présent dépend aussi de ce qu'était avant, donc on n'est pas totalement libre sur le présent. Si on reste fixé sur le passé, alors on ferme toutes les portes à ce que l'on peut être, aux nouveautés et aux changements. Et si on se dissout dans l'espérance et dans le futur, alors on ne vit plus, on n'est plus rien, ou on est ballotté par une sorte de rêve absurde qui ne peut avoir aucune incarnation, aucun résultat concret. Et donc l'Évangile lui-même, je crois, nous apprend à essayer de jouer avec ces différentes facettes, d'avoir certes une espérance, mais de ne pas se dissoudre dans l'espérance, d'avoir foi dans une promesse dans l'aujourd'hui, mais de ne pas se limiter à l'aujourd'hui, de ne pas craindre le futur, et pourtant quand même de préparer le futur, de ne pas être esclave du passé, et pourtant d'être quand même enfant d'Abraham. Et donc il y a là quelque chose d'extrêmement subtil qui, moi, me passionne, et qui peut être résumé par, je dirais, ces trois vertus théologales de Paul en 1 Corinthiens 13, où l'on retrouve justement la foi, l'espérance et l'amour. Ce qu'on peut dire, que finalement la foi, c'est le socle sur lequel je me construis, le socle de mes certitudes, de mes convictions, de ce que je suis, c'est, voilà, c'est la base. Donc la foi, c'est ce sur quoi je construis. L'espérance, eh ben c'est ce vers quoi je cours, vers quoi je vais, c'est ce que je découvre, c'est vers quoi je tourne mon regard. Et sans espérance, il n'y a pas de vie chrétienne possible. Et donc il y a la foi d'un côté sur lequel je me construis, il y a l'espérance qui m'attire, et au milieu, il y a l'aujourd'hui de cela qui est l'amour. Parce que l'amour, eh bien, c'est l'aujourd'hui de la foi et de l'espérance. Aujourd'hui, Seigneur, que ferai-je ? Eh bien, aujourd'hui, mon ami, aime ton prochain comme toi-même et Dieu de tout ton cœur. Et aujourd'hui, Seigneur, que fais-tu pour moi ? Aujourd'hui, dit le Seigneur, je t'aime. C'est simple. Et par conséquent, la vie chrétienne, elle est comme cela. Et l'espérance est certainement une des trois vertus. Si on ne prend qu'elle, on se perd. Mais gardons ces trois vertus, la foi, l'espérance et l'amour. Et Paul, qui sur ce point est d'accord avec moi, la plus grande de ces vertus, c'est l'amour. Parce que la vraie question, c'est aujourd'hui, que feras-tu ? Aimer. Et pourquoi peux-tu aimer ? Parce que Dieu t'aime. Amen.